Voici La vie et l'œuvre d'Aristote, proposée en nouvelle diffusion par Catherine Paoletti.
La métaphysique, science de la substance, de l'un et du multiple, et des contraires qui en dérivent.
Comme diraient les philosophes modernes, il passe son temps à juger. À juger non pas au sens des juges, au sens judiciaire, mais au sens philosophique, critique du jugement. Et c'est en cela que son œuvre me paraît à la fois rigoureuse et féconde.
Une vie, une œuvre. Aristote, le maître de ceux qui savent. Une émission de Catherine Paoletti.
D'une certaine manière, il est celui qui donne son sens à une expression qui est devenue banale, qui est l'expression philosophie politique. Ce que nous appelons politique, campagne électorale, élection, etc., c'est peut-être ce qu'il y a de moins fondamentalement politique, puisque la question politique, par excellence, la seule, et c'est celle qu'on peut retenir d'Aristote, c'est pourquoi vivre ensemble, à quoi bon vivre ensemble, et qu'est-ce que nous voulons être ensemble parce que nous vivons ensemble. Alors c'est les questions, les seules vraies questions politiques, et c'est pas celles que l'on trouve souvent traitées dans la politique, hélas.
Organiser sa vie et donner une place à l'activité théorétique qui est forte, c'est ça le propre du philosophe, par distinction des autres, par exemple de celui qui donne une place plus importante à l'activité politique, donner une place à l'activité théorétique telle que les plaisirs propres à cette activité correspondent aux plaisirs que le sage tout court, ou la divinité, puisque le modèle c'est la divinité, exercerait tout le temps indépendamment de toute autre condition. Bon, le philosophe, lui, n'est pas en dehors de la cité. Quoi qu'il cherche à se donner une part d'autonomie, d'activité, la plus grande possible par rapport à la cité, c'est-à-dire ne pas être dévoré par elle. Mais il n'est pas en dehors de la cité. Le sage le serait peut-être, mais est-ce que le sage s'est trouvé ?
Aristote naît dans un petit port de la mer Égée, à Stagir, en 484 avant Jésus-Christ, la première année de la 99e Olympiade, 16 ans après la mort de Socrate et 46 ans après la naissance de Platon. Descendant d'Esculape, fils de Nicomaque, le médecin du père de Philippe de Macédoine, il passe son enfance entre Stagir, le domaine de son père, et Chalcis, en Eubée, les propriétés de sa mère. À 11 ans, ses parents meurent, Proxénos le recueille et lui facilite son éducation. Il connaît Homère par cœur et s'intéresse au philosophe d'Athènes dont la réputation a atteint Stagir. À 17 ans, il se décide à rejoindre l'école de Platon.
Je pense qu'il était très déçu parce qu'il s'attendait à voir Platon qui avait une grande aura, qui était assez connue et c'était lui qu'il était venu voir. Et alors il tombe sur Eudoxe qui lui fait des mathématiques. Je crois qu'on dit d'ailleurs qu'il n'a jamais vraiment bien compris les mathématiques. Je pense qu'il a dû s'ennuyer la première. Enfin, il a fait ce qu'il fallait, mais il a dû s'ennuyer. Il était riche, il avait été très aisé. Donc il devait mener une vie assez agréable d'étudiant. Et c'est à ce moment-là qu'on peut commencer à dire qu'il était un liseur.
Anne Coquelin.
C'est à ce moment-là qu'on imagine qu'il achète des livres, qu'il se plonge dedans et qu'il commence vraiment à être ce liseur impénitent.
Et donc Platon le remarque.
Oui, parce qu'il était premier de la classe. Genre premier de la classe. Et il était brillant. Et il comprenait très vite. Mais ça s'est un peu détraqué au fur et à mesure de ses années d'études, parce qu'il a porté la contestation. Il n'était pas tout à fait d'accord avec Platon, et au bout d'un moment, il l'a dit.
Platon supportait mal ça ?
Très mal. Il voulait absolument que tout le monde l'adore, et il n'aime pas du tout que quelqu'un lui apporte la contradiction. Et il a dit d'ailleurs de lui que c'était un poulain qui ruait dans le ventre de sa mère, enfin qui ruait contre sa mère. Il s'y prenait pour sa mère, et l'autre pour un poulain. Et voilà, un poulain ruant. Et c'était, ça commençait à aller un petit peu mal à ce moment-là.
Alors l'académie, comment on peut l'imaginer ?
On peut imaginer que, contrairement à Aristote, Platon faisait ses leçons assis. On a quelques illustrations de Platon faisant son cours, évidemment, à Naples, je crois qu'il y a une mosaïque qui le représente assis avec ses disciples autour de lui. Et on peut savoir aussi qu'il avait une voix très agréable, et qu'il faisait des phrases, et que c'était très agréable à entendre. Et puis il était entouré de toute sa cour, de jeunes gens brillants d'Athènes, et dans lesquels il y avait ce provincial un peu gauche, assez habillé d'une manière un peu voyante. Ça, on a les détails par Diogène Laërce, ce qui est intéressant. C'est-à-dire qu'il avait des bagues, il était un peu voyant, enfin un peu rasta, si on peut dire ça maintenant. Et donc, il faisait un peu remarquer par cette attitude. D'autre part, il n'était pas attiré par les hommes. Et donc, il détonnait un peu dans le cadre de ces jeunes gens.
C'était singulier. Alors donc c'est là, c'est à cette période qu'il compose ses premiers textes, donc sous forme de dialogue, c'est les premiers travaux d'Aristote. Alors malheureusement ils sont perdus, on en a des détails que par...
On peut parler les commentateurs.
Notamment Cicéron, enfin, on parle des dialogues, ouais, c'est pour ça aussi qu'on...
Ils ont dû tomber dans l'oubli, mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une sorte de fatalité sur ses œuvres. Platon, par exemple, rien ne s'est jamais perdu, mais pour Aristote, on a mis 2 siècles avant de retrouver ses œuvres. Elles étaient dans une cave oubliée en Asie mineure.
Aristote reste très souvent beaucoup plus platonicien qu'on ne le croit. D'ailleurs, il y a des textes où Aristote dit « nous platoniciens ». Il n'a jamais refusé la dette, si vous voulez. Je crois que la différence n'est pas dans les objets, je crois qu'elle est plutôt dans la façon même dont ils conçoivent, disons, la philosophie, ou la pensée tout court, ce qui est la même chose.
Monique Dixot.
Je crois qu'Aristote... S'il forge des instruments qui sont absolument différents de ceux de Platon, en particulier, je crois que c'est vraiment son instrument le plus important, la distinction entre la puissance et l'acte, et sa logique, qu'il ne faut pas oublier, parce que Platon n'en a pas fait, justement, de logique. Là, Aristote est génial, vraiment, sur ce point. Enfin, il a constitué une logique, et c'est bien le premier à l'avoir fait. Mais je crois que la vraie différence réside dans le fait que, pour l'un, la philosophie est à la fois toujours de l'ordre d'un désir de comprendre. S'il n'y a pas de désir chez Platon, il n'y a pas de pensée. Et en même temps, ce désir de penser n'a besoin, ne s'alimente qu'à lui-même, on va retrouver... Et il a toujours en lui-même du mouvement pour aller plus loin. Mmh. Bon. Platon ne reprend jamais dans un dialogue, ce qu'il a établi pourtant très péniblement dans un autre dialogue antérieur. Alors que chez Aristote, je crois que l'intention est tout à fait différente. Aristote va constituer des champs philosophiques. Ce qu'il veut, c'est délimiter les domaines. Et c'est pour ça qu'il élabore une logique, une physique, dont la psychologie, en particulier le traité de l'âme, n'est qu'une partie. Hein. La psychologie est une partie de la nature, hein, de la science de la physis, la science de la nature. Bon, une métaphysique, une politique, une rhétorique, etc. Il va séparer les champs, les séparer de façon extrêmement claire, précise. Il va les articuler. Alors, effectivement, avec une hiérarchie, parce que ça, c'est le postulat de toute l'Antiquité. Le postulat étant le suivant, la science la plus haute, c'est nécessairement celle de l'objet le plus haut. Hein. Une science vaut ce que vaut son objet. C'est-à-dire, si on parle de hiérarchie, alors c'est la hiérarchie des objets qui importe. Et ça, c'est vrai, évidemment, encore chez Aristote. C'était vrai chez Platon aussi. L'idée qu'on puisse séparer la forme et le contenu, je pense que ça leur aurait paru une espèce de barbarie, en tout cas, dont ils n'ont pas eu l'idée. Ça, c'est certain.
La question de savoir si les anciens n'ont jamais connu la métaphysique sous ce titre-là est une question plus délicate qu'on croit, parce que l'édition, la première édition que nous connaissions, dont nous avons connaissance au 1er siècle avant notre ère par Andronicus de Rhodes, lui a sans doute pas donné ce titre, simplement ça venait après la physique, donc on a appelé métaphysique, après la physique, mais très rapidement, on a un auteur du 1er siècle de notre ère, qu'il appelle ta métaphysica. Déjà, bon. Alors ça, c'est sans doute dans le sens de les choses qui viennent après la physique. Mais ça va s'installer dans l'Antiquité tardive, donc en fait, ils le connaissent un peu. Alors, il est vrai qu'en réalité, le titre qu'Aristote lui-même donne aux recherches qui sont faites dans ces livres-là, c'est les travaux sur la philosophie première. Hein. Donc c'est comme ça qu'il faut appeler la discipline visée.
Livre Gamma. Il est une science qui considère l'être en tant qu'être et qui considère en même temps toutes les conditions essentielles que l'être peut présenter. Cette science-là ne peut se confondre d'aucune manière avec les autres sciences dites particulières, puisque pas une de ces sciences n'étudie d'une manière universelle l'être en tant qu'être. Mais, le découpant dans une de ses parties, elle limite leur recherche aux propriétés qu'on peut observer dans cette partie spéciale. C'est ce que font par exemple les sciences mathématiques. Mais quand on ne s'attache, comme nous, qu'aux principes et aux causes les plus élevés, on voit clairement que ces principes doivent être ceux d'une certaine nature prise en soi. Et voilà pourquoi nous, aussi bien que nos devanciers, nous essayons de découvrir les principes premiers de l'être en tant qu'être. Métaphysique.
Alors la philosophie première, puisque c'est comme ça qu'elle est désignée, c'est une troisième science.
Bernard Besnier.
Est-ce que c'est une science qui donne les principes des deux, de ces deux-là, puisqu'on les appelle des philosophies secondes, ou est-ce que c'est une troisième science qui se distinguerait en étant peut-être supérieure aux deux autres, exclusivement parce qu'elle aurait un objet qui serait supérieur, mais sans pouvoir donner ses principes aux deux autres? Alors là, c'est assez difficile à répondre, mais on peut dire, c'est-à-dire qu'on peut donner les deux réponses. Hein. C'est-à-dire qu'on peut plus exactement limiter les deux réponses. Elle ne peut pas donner ses principes aux deux autres parce qu'il y aura des principes spécifiques pour les deux autres. Donc, et ces principes spécifiques, on va jamais pouvoir les dériver. Mais elle donne certains principes généraux, notamment le principe de contradiction. Hein. Et notamment, pour la physique, le rôle hiérarchisé des quatre causes. Plus exactement, le rôle, je veux dire, la hiérarchie des quatre causes. La physique sait qu'elle travaille avec quatre causes, mais elle connaît pas la hiérarchie spontanément. Donc la métaphysique lui donne la hiérarchie des quatre causes. Alors, de ce point de vue, on peut dire qu'effectivement, elle joue un rôle architectonique, même au sens kantien, c'est-à-dire réfléchissant sur les principes constitutifs des autres disciplines sans chercher à les dériver. Hein. Je veux dire, bon, ça serait faire un anachronisme terrible que d'essayer de tout comprendre de cette manière-là, bien entendu. Mais, je veux dire, envisager les choses un peu dans cette relation-là, ça peut donner parfois d'assez bons résultats pour la compréhension de ce que fait la métaphysique par rapport au reste.
Mais quant à la singularité de sa démarche, est-ce que vous considérez que finalement, un peu comme Hegel l'a considéré, que Aristote est le premier, finalement, des philosophes à avoir assujetti toute la diversité du réel et de l'avoir soumis au concept?
Le jugement d'Hegel sur Aristote est juste. C'est-à-dire, c'est bien vrai que Aristote a fait en sorte que l'ensemble du savoir tienne de manière systématique, disons systématicité, au moins de cohérence thématique, et de cohérence d'instruments conceptuels, pas forcément systématicité avec des principes qui seraient communs à tout le reste. Hein. Bon, ça, donc, alors, sa forme système, dans ce sens restreint, pas tout à fait dans le sens qu'il y aura un peu après avec les stoïciens. Il est le premier à l'avoir fait de manière explicite. C'est pas sûr que Platon ait pas pensé aussi à en faire autant, hein. Pour nous, c'est comme ça. Alors, il a donné, de ce point de vue-là, un certain visage à ce qu'est la philosophie, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui réfléchit sur l'ensemble de du savoir dont elle est contemporaine et qui cherche à en penser les principes. Bon. Et qui ne peut le faire qu'en connaissant les choses de l'intérieur. S'il y a encore de la philosophie à venir, puisqu'il y a des gens qui en doutent, certainement il faut que ça soit comme ça encore. Il n'y a pas de raison pour penser que cette configuration doive disparaître.
Alors la mort de Platon, c'est à nouveau un bouleversement dans la vie d'Aristote.
Oui, parce que il pensait avoir le poste, comme, bon, c'est dit d'une manière triviale, il pensait prendre la tête de l'Académie après Platon.
Mais il était resté 20 ans quand même.
Il est resté 20 ans.
À l'Académie, ce qui fait beaucoup.
Alors on peut l'imaginer qu'il avait son groupe d'étudiants et de disciples autour de lui et qu'il était, nécessairement, il était couvert par l'ombre de Platon. Mais il a supposé, comme je pense à peu près tout le monde, qu'il aurait la charge de l'Académie à la mort de Platon. Et Platon lui a joué un tour pendable en faisant élire en quelque sorte ou en mettant à sa place son neveu. En disant que c'était de famille héréditaire. Et alors ce malheureux Spesip, il était, je crois, assez mauvais philosophe, en plus assez débauché. Enfin, c'était pas un modèle de vertu, et surtout c'était un mauvais philosophe. Et je crois qu'Aristote a été complètement écœuré, et donc il est parti. Il est parti en Asie mineure.
Mais en fait, comme en plus, comment dire, on pourrait dire qu'un malheur ne vient jamais seul, stagiaire se trouve détruit
oui,
par Philippe de Macédoine.
Par les guerres de Macédoine.
Voilà, alors donc en fait il perd...
Il perd sa maison de famille, il ne veut pas aller en EB parce que ça ne présente aucun intérêt, et il pense qu'il va trouver de l'emploi, si on peut en dire ça, à la cour d'un de ses amis qu'il avait connu justement dans ses premières... quand ses parents étaient morts, il avait été chez son oncle, il avait trouvé un ami qui était là et qui est devenu roi. Donc il se dit qu'à la cour de ce roi, il va pouvoir avoir son école, avoir de l'argent pour installer ses bibliothèques, ses collections, parce qu'il était déjà très collectionneur, et puis pouvoir travailler tranquillement et attirer autour de lui des disciples.
Alors donc c'est à la cour de Hermias.
C'est à la cour de Hermias, qui était malheureusement pour Aristote un affranchi et un tyran. Alors, mais c'était un ami, donc il l'a très très bien reçu.
Et on pourrait dire qu'il a eu une influence positive sur lui, parce qu'il aurait, assoupli la constitution de son pays.
On le dit, mais je crois que ça a quand même mal tourné, et qu'il est devenu de plus en plus tyrannique et de plus en plus insupportable. Et finalement, il s'est senti mal à cette cour et il est allé à Lesbos.
Et donc c'est là qu'il met vraiment en route son projet, disons, d'école, enfin qui deviendra le lycée.
Alors Théophraste est avec lui, d'autres jeunes gens viennent se grouper autour, et ils font un programme d'école. Et là, c'est là d'ailleurs, c'est intéressant comme étape dans sa vie, parce que c'est là qu'il va, je pense, faire toutes ses observations sur la nature et sur les fleurs et sur les plantes.
Tout change encore à nouveau.
Il change parce qu'il reçoit, il reçoit une sorte de télégramme, si on peut appeler ça comme ça, de Philippe, oui, son ami d'enfance, donc qui avait 2 ans de moins que lui, et qui a un fils qui a maintenant 11 ans,
Alors donc à 42 ans, il est précepteur du fils...
Donc Alexandre.
Alexandre.
Et donc il retourne dans sa Macédoine natale et il va à Pella. Et là, il essaye de faire l'éducation de ce fils de roi.
Mais il y met des conditions.
Refaites Stagir, reconstruisez Stagir. Je voudrais que mon village soit de nouveau reconstruit. Et Philippe l'écoute, ne le fait pas tout de suite, mais il le fera un petit peu plus tard. Il reconstruit Stagir. Mmh. Et lui, il met une seconde condition, c'est que la cour de Pella n'est pas un endroit pour éduquer un prince. Et il va dans les montagnes plus loin.
Mais alors là, sa réputation empire carrément.
Pour les Grecs, oui, bien sûr. Il est devenu...
Déjà, il était le protégé d'un eunuque. Après, il est le protégé d'un Macédonien.
Ça n'arrange pas les choses. Et on lui reprochera beaucoup, ça.
Politique, livre 1, chapitre 1. Puisque toute cité est une certaine communauté et que toute communauté est constituée en vue d'un certain bien, car c'est en vue de ce qui leur semble le bien que les hommes font ce qu'ils font, il est manifeste que toutes les communautés visent un certain bien, et que, avant tout, vise le bien suprême entre tous, celle qui est suprême entre toutes, c'est-à-dire celle qui contient toutes les autres. C'est celle qu'on appelle la cité, ou communauté politique.
La politique d'Aristote, ou ainsi que le... traduit un de ses plus récents traducteurs en français, Les Politiques, le titre fait bien sentir cette variété. Donc La Politique n'est pas un livre écrit par un auteur qui expose son point de vue sur la politique. C'est un recueil d'études variées.
Francis Wolff.
Il n'y a ni unité de point de vue, ni unité de démarche, ni unité de discipline. Du point de vue discipline, on y trouve aussi bien des considérations historiques, des considérations métaphysiques, des considérations qu'on appellerait sociologiques, ethnographiques, géographiques, etc. Du point de vue de la démarche, on y trouve en gros deux grands types de démarches. Une démarche de type spéculatif, c'est-à-dire plus philosophique, et une démarche de type plus positif, c'est-à-dire scientifique, chercher ce que sont les choses positivement, concrètes, etc. C'est le biologiste chez Aristote et parfois le métaphysicien. Et du point de vue de l'intention, on y trouve deux intentions politiques qui se croisent, qui sont tout à fait distinctes. Une intention, je dirais, prescriptive ou normative, qu'on connaît déjà depuis Platon, ce sont les questions du genre quel est le meilleur régime, quelle est la meilleure façon de vivre ensemble, et d'autre part, une intention de type descriptif, comment sont les choses, quelles sont les constitutions réellement existantes, quels sont les arguments des uns et des autres pour les défendre, quelles sont les différents points de vue qu'on peut adopter sur la politique. Alors du croisement de ces deux intentions, me semble-t-il, et de ces deux types de démarches, on a différents livres, et je dirais que les livres les plus philosophiques, c'est le livre 1 et 3, parce qu'ils sont à la fois descriptifs et spéculatifs. Puis on a des livres idéalistes, parce qu'ils sont à la fois prescriptifs et spéculatifs, les livres 2, 7 et 8, la fin, qui est plus platonicienne. Puis on a des livres, au contraire, descriptifs, positifs, scientifiques. C'est le livre 4, on dirait des livres sociologiques, un livre sociologique de nos jours. Puis le livre 5 et 6, qui est à la fois positif, concret, et puis en même temps prescriptif, dans la mesure où il s'interroge sur la meilleure façon de préserver les différents régimes. Jusqu'à ces passages extravagants, à nos yeux, où Aristote, qui par ailleurs critique la tyrannie comme le pire des régimes, comme le régime le plus apolitique, et bien on vient froidement, dans le livre 5, chapitre 11, à expliquer comment le tyran pourrait faire pour se préserver au mieux de la chute de sa tyrannie.
Politique, livre 5, chapitre 11. Quant aux tyrannies, les recettes formulées jadis pour assurer autant que possible leur sauvegarde sont les suivantes. Retrancher du corps social les gens supérieurs, c'est-à-dire supprimer les grands esprits. Faire en sorte que les habitants soient toujours sous l'œil du tyran et passent leur temps à sa porte. s'efforcer aussi de dresser les gens les uns contre les autres, de mettre la zizanie entre amis, entre le peuple et les notables, parmi les riches entre eux. Appauvrir les sujets est aussi un procédé propre à la tyrannie qui vise à ce qu'ils ne puissent pas entretenir de milices, et que pris par leurs tâches quotidiennes, ils n'aient aucun loisir de conspirer. Exemple de ce procédé, les pyramides d'Égypte et la construction du temple de Zeus. Le tyran est aussi un fauteur de guerre, ce qui fait que ses sujets n'ont aucun loisir et en viennent à avoir besoin d'un guide. Et alors que la royauté trouve son salut dans ses amis, le propre d'un tyran, c'est d'avoir surtout de la méfiance envers ses amis, sous prétexte que si tous lui veulent du mal, c'est surtout ses amis qui peuvent lui en faire.
Nulle part, Aristote ne vient affirmer que la tyrannie est le meilleur régime. Mais dans ces textes du livre 5, où il va pratiquement conseiller le tyran pour se demander qu'est-ce qu'il ferait bien de faire le tyran pour conserver son pouvoir, c'est une espèce de point de vue de biologiste, d'entomologiste. Il étudie les constitutions, il étudie les réalités, et avec une espèce, alors on appellerait ça du cynisme, en tout cas, une espèce, je dirais, de froideur d'entomologiste, ou de ici c'est plutôt le point de vue du vétérinaire que de l'entomologiste, et je dirais, d'une certaine manière, que c'est pratiquement le point de vue authentiquement politique, d'une certaine manière, dans la mesure où il est parfaitement dégagé de toute considération et normative et éthique. Il y a une espèce de considération sur la réalité politique comme telle. Dans la classification qui nous offre des régimes, il y a indiscutablement trois régimes justes et trois régimes injustes. Les trois régimes justes sont les trois régimes que sont justement la royauté, l'aristocratie et la démocratie, qui sont justes dans un certain sens du mot juste, c'est-à-dire qu'ils correspondent à l'essence même du politique, cette essence du politique étant l'intérêt général de la cité. Alors, dans un premier sens du mot juste, ce que j'appelle le juste politique, les trois sont justes et les trois autres, tyrannie, démocratie extrême et oligarchie, sont injustes parce qu'ils sont apolitiques, antipolitiques. On gouverne dans son propre intérêt. Alors ça, c'est un premier sens du mot juste. Et c'est un premier type de réponse. Ça dépend du caractère national dès lors qu'on est dans le politique et non pas dans l'antipolitique ou dans la politique. Dans la politique. Puis il y a un deuxième sens du mot juste, qui est comment va-t-on répartir le pouvoir ? C'est-à-dire, comment va-t-on faire pour... Est-ce que ça doit être un, quelques-uns ou tous ? Alors évidemment, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'Aristote, à certains moments, rentre dans cette problématique et par moments l'élimine. Pourquoi ? Parce qu'il estime que cette question même est une fausse question. Le pouvoir n'est pas quelque chose qui a politiquement à être réparti. Dès lors qu'on pense répartition du pouvoir, on est dans une conception de la politique qui est antipolitique, dans la mesure où on considère que le pouvoir est un bien et que chacun doit avoir sa part. Alors les démocrates qui raisonnent comme ça en disant « mais il faut qu'on en ait notre part nous aussi », ils le rejettent en disant « mais pourquoi ? Parce que vous êtes également libre, est-ce que c'est une raison pour avoir du pouvoir ?» Mais à ce moment-là, non, les aristocrates ont raison, parce que c'est eux les meilleurs, et c'est eux qui doivent avoir le pouvoir. Alors les aristocrates disent « ben oui, nous sommes les meilleurs, ou bien l'aristocratie de sang, ou bien l'aristocratie qu'on appelle la méritocratie, etc. Nous devons avoir le pouvoir, pour telle et telle raison. » Et dans ce cas-là, Aristote a des arguments contre aussi. Il va dire « mais pourquoi ça n'est pas un bien que vous avez à vous partager ?» Donc tant qu'on raisonne dans ces termes d'une justice distributive du pouvoir, on est dans une problématique que jusqu'à un certain point Aristote accepte parce qu'il va exposer les arguments des uns et des autres, mais que finalement il refuse parce que c'est un raisonnement qui est antipolitique, parce que dans les trois cas, on raisonne comme si c'était un bien qu'on devait s'approprier et donc on tombe du côté de la perversion du politique. Alors donc, à ce moment-là, il y a une troisième question, qui est la véritable question. Quelle est entre les trois régimes, celui qui est le meilleur, c'est-à-dire dans quel cas gouverne-t-on le mieux en vue de l'intérêt général. Et là, il y a soit les textes relativistes dont j'ai parlé tout à l'heure en disant ça dépend du caractère national, soit des textes qui, à mon sens, militent en faveur du fait que pour Aristote, pour des sociétés comme celles qu'il connaissait, notamment la cité athénienne, la démocratie est sinon le meilleur régime, du moins un bon régime lorsqu'elle est encadrée par les lois et lorsqu'elle ne passe pas aux dernières extrémités. Alors pourquoi la démocratie serait-elle un bon régime? Eh bien, Aristote a un argument assez extraordinaire, selon lequel finalement une assemblée prise comme un tout, est capable, lorsqu'elle délibère et lorsqu'elle juge, de prendre des décisions meilleures que les individus les plus sages individuellement. Pourquoi ? Eh bien, grâce à ce qu'on pourrait appeler la valeur de la délibération. Alors, il invente, pour justifier la valeur de la délibération d'un corps pris comme tel, un concept tout à fait nouveau, c'est le concept de jugement, qui est un concept très moderne selon lequel ce qui importe en politique, ce n'est pas simplement de savoir qui est apte à prendre la décision la meilleure parce qu'il aura appris par son savoir, etc., mais qui est apte à juger. Et c'est, à mon avis, qui est apte à juger de ce qui se fait politiquement. Et ce qui est apte à juger de ce qui se fait politiquement, c'est les destinataires du politique, c'est-à-dire les citoyens en tant que tels.
Distinction de la puissance et de l'acte.
Métaphysique, livre Theta.
Réalité de la notion d'impossible.
Livre Eta.
L'unité de la définition. La vérité et l'erreur.
Livre Theta.
Antériorité de l'acte sur la puissance.
Dans ces trois livres, ce qui est remarquable, c'est donc l'homogénéité du matériel pour résoudre les problèmes. Bon. Qu'est-ce qui fait que quelque chose à quoi on donne le titre de substance, c'est-à-dire une chose autonome, qui a sa réalité par elle-même et sa nature, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'ait pas de cause, mais elle a sa nature, qu'est-ce qui fait qu'une telle chose est intelligible et de préférence, si c'est une chose singulière, quels sont ce qui permet de les rendre intelligibles. Deuxième problème, qu'est-ce qui fait que quand une chose de ce genre est exposée à un changement, soit de qualité, par exemple de l'eau qui de froide devient chaude, soit de génération, quelque chose qui n'était pas encore apparaît, par exemple un animal, hein, donc qui est d'abord un embryon et ensuite devient un animal, bon, c'est ça les bons exemples de génération chez lui, ou les transformations d'éléments en éléments, quelque chose qui était de l'eau devient du feu, bon, qu'est-ce qui fait que cette transformation est reconnaissable avec un point de départ, un point d'arrivée, et qu'on puisse dire que le processus a eu lieu vraiment affectant ceci et aboutissant à ceci. Et enfin, le troisième problème, c'est qu'est-ce qui fait que si une chose est un individu, cet individu soit en relation, en quelque sorte, avec, de manière générale, ce qui va lui permettre de subir des modifications. Donc, ce qui veut dire que dans l'individu, il doit y avoir toujours de l'acte et de la puissance. Alors, les problèmes sont abordés à partir de l'idée qu'il doit y avoir, et il y a, disons, trois notions essentielles de ce qui est candidat au titre de substance, à savoir le caractère de substrat, de support, parce que c'est le support d'un changement. Dans le changement, on a besoin d'un support. Dans la définition, on a besoin d'un support. Une définition, c'est l'indication d'une qualité générale plus d'une différence. Bon, donc il y a besoin d'un support. Et puis, dans la réalité individuelle, il y a visiblement un support plus d'autres choses. Bon, la deuxième, le deuxième caractère, enfin, c'est la forme. Hein. La chose se distingue en tant qu'elle a telle forme. Grâce à ça, il est tel, c'est un tel individu. Du moins, c'est un homme plutôt qu'un cheval. Bon. Et la troisième, et puis alors, le mouvement se distingue parce qu'il y avait une forme au début, elle n'y est plus à la fin, ou il y en a une autre à la place, bon. Mais le troisième élément, c'est le composé de forme et de matière. Et on peut dire, en effet, que ce qui subit un changement dans sa forme à condition que quelque chose de la matière continue à fonctionner comme substrat, que quelque chose est vraiment une réalité perceptible, etc., s'il est un composé de forme et de matière, que dans la définition même, on a aussi une composition de forme et de matière, puisqu'on peut traiter le genre dans la définition comme étant une certaine matière et la différence comme étant une certaine forme. Alors, il cherche à savoir quel est ce qui est le plus principe et le plus candidat, enfin, le meilleur candidat au titre de substance dans ces trois choses-là. Et la réponse, c'est pas la matière, hein. Elle est indispensable, mais ce n'est pas la matière. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas non plus le composé de forme et de matière. Il faut qu'il y ait un composé de forme et de matière, bien entendu, mais ce n'est pas lui qui est principe. Et le vrai principe, ça reste la forme. Hein. Donc, ça reste la forme, y compris de manière curieuse, parce qu'on a des formules telles qu'on dit que la forme est substance première, alors qu'on s'attendrait à ce que ça soit le composé de forme et de matière, et en quelque sorte la forme est là comme une sorte de programme de réalisation de ce que va être le composé de forme et de matière, que ça soit dans le cas du mouvement ou que ça soit simplement dans le cas de la génération, enfin de la formation d'une substance individuelle, et puis alors bien entendu dans le cas de la définition. Donc il y a cette unité qui est assez remarquable.
Distinction de la puissance et de l'acte. L'acte est le fait pour une chose d'exister en réalité et non de la façon dont nous disons qu'elle existe en puissance. Quand nous disons par exemple qu'Hermès est en puissance dans le bois, ou quand nous appelons savant en puissance celui qui même ne spécule pas s'il a la faculté de spéculer. Eh bien l'autre façon d'exister est l'existence en acte. 1048b. L'acte sera alors comme l'être qui bâtit est à l'être qui a la faculté de bâtir, l'être éveillé à l'être qui dort, l'être qui voit à celui qui a les yeux fermés mais possède la vue, ce qui a été séparé de la matière à la matière, ce qui est élaboré à ce qui n'est pas élaboré. Donnons le nom d'acte au premier membre de ces diverses relations, l'autre membre c'est la puissance. Mais toutes les choses ne sont pas dites en acte de la même manière. En effet, l'acte est pris tantôt comme le mouvement relativement à la puissance, tantôt comme la substance relativement à quelque matière. Métaphysique, θ 6.
De l'âme, je crois, vient du fait qu'Aristote emploie les mêmes instruments d'analyse, ceux qu'il a lui-même élaborés et qui sont très différents des instruments platoniciens, précisément. Je crois que ces instruments sont essentiellement, d'une part, la distinction entre mouvoir et être mu, et d'autre part la distinction entre la puissance et l'acte. Et ça, c'est la grande originalité d'Aristote. Cette distinction entre puissance et acte lui permet toujours, c'est son instrument par excellence, parce que c'est l'instrument qui lui permet de toujours rétablir les continuités. Aristote est quelqu'un qui veut la continuité, à la différence de Platon qui ne veut lui que les ruptures. Donc c'est, je crois qu'on pourrait vraiment, en simplifiant beaucoup, dire quelque chose comme ça. Bon, de telle sorte que, à partir du moment où on admet, par exemple, qu'il y a sentir en puissance et un sentir en acte, une intelligence en puissance et une intelligence qui s'actualise quand elle pense tel ou tel objet, il n'y a jamais de discontinuité, de trou entre la possession des facultés et leur exercice, d'une part, et entre les différentes facultés, d'autre part. Bon. Et ça, on le voit très bien manœuvrer, je veux dire, de cette façon-là, tout au long du traité de l'âme. Alors, évidemment, il y a d'énormes différences, parce que la sensation, eh bien, il faut nécessairement qu'elle ait un donné. Bon. Une sensation a, il y a une part d'activité, mais il y a une part nécessairement de donné, de passivité. Et cette passivité est aussitôt traduite par Aristote en termes de mouvement. Le donné, c'est ce qui va mouvoir la sensation. La sensation va recevoir un ébranlement, si vous voulez, de la part du sensible. Bon. Alors que, si on va à l'autre bout, l'intelligence, enfin l'intellect pratique en tout cas, est aussi passive. Seulement, ce n'est pas une sensation, ce n'est pas une espèce de sensation. Ça, c'est l'erreur qu'Aristote dénonce d'ailleurs dès le début de la métaphysique, de sa métaphysique, en disant justement que les anciens avaient confondu aesthésis, la sensation, et noésis, hein, bon, l'intellect, ou phronésis, la pensée. Pourquoi ? Parce que la pensée ne part pas d'un donné sensible, mais elle part d'image. Elle part de l'imagination. Il le dit dans le traité de l'âme en 3.7, quant à la pensée dianoétique, c'est-à-dire discursive, les images lui tiennent lieu de sensations. Et quand l'objet est bon et mauvais, elle affirme ou nie, fuit ou poursuit. C'est pourquoi l'âme ne pense jamais sans image. Qu'il n'y ait pas de pensée sans image, c'est réintroduire, évidemment, du sensible, un point de départ ou des moyens sensibles à l'intérieur de l'intellect, mais c'est quand même émanciper l'intellect de se donner sensible. C'est-à-dire que l'intelligence peut se donner à elle-même ses propres images et par conséquent n'attend pas de l'extérieur, si vous voulez, comme la sensation, les occasions de penser, alors que la sensation attend les occasions de sentir pour sentir, bien évidemment. S'il n'y a pas de couleur et si je suis dans la nuit noire, je ne verrai rien. Donc elle ne passera pas à l'acte, la vision ne passera pas à l'acte, si vous voulez. Alors que l'intellect a le moyen, l'intelligence, la pensée a le moyen de s'actualiser parce qu'elle a le moyen de se servir d'image. C'est la grande différence entre penser et sentir.
Ce qui se produit, c'est qu'on a le croisement de deux grilles conceptuelles. L'une qu'on pourrait articuler autour du couple forme-matière, hein, et l'autre qu'on articule autour du couple acte et puissance. On aurait tort de faire, comme on fait souvent, l'identification entre l'acte et la forme, et puis la matière et la puissance. Ça ne marche pas. Dans beaucoup de cas, quelque chose qui a sa forme est cependant en puissance par rapport à autre chose. Hein, c'est les choses bien connues. J'ai appris la grammaire, donc je suis quelqu'un qui peut faire des énoncés grammaticaux, parler, etc. Au moment où une activité de grammairien, donc je peux dire que j'ai la forme du grammairien, que je l'ai en acte en plus, bon. Mais n'empêche, par rapport à l'activité du grammairien, si je suis en train de dormir ou des choses comme cela, je suis pas en acte un grammairien dans le sens second. Donc ça ne colle pas complètement, et c'est clair qu'il y a deux choses qui évidemment doivent fonctionner ensemble, autant que possible, mais qui sont pas complètement identiques. Alors c'est possible que Aristote d'ailleurs ait penser à, enfin, est tenté, on a souvent des formules de ce genre chez lui, de donner aux problèmes qu'il formulait, qui viennent de la tradition, tantôt une solution avec le rapport matière-forme, tantôt une solution avec le rapport acte et puissance. Est-ce qu'il cherchait à les combiner ou pas? C'est, enfin, faut le voir cas par cas. Hein. Et alors, il y a effectivement des endroits où il ne cherche pas à les combiner. C'est ce qui nous plonge dans l'embarras. Hein. On trouve souvent dans la physique, d'ailleurs, des formules avec une solution avec matière-forme pour des principes, et puis à la fin, une phrase qui dit « on pourrait aussi aborder la question avec le rapport acte et puissance ». Ce qui veut dire qu'il ne les a pas combinés. Il n'a pas considéré que c'était incompatible, mais il ne les a pas combinés directement. Et ce que le rapport acte-puissance introduit, c'est qu'il y a besoin en plus d'une causalité qu'on appelle motrice, qui donc est extérieure. C'est-à-dire, si quelque chose n'a pas encore cette forme alors qu'il en a la capacité, y compris du point de vue final, il faut qu'il y ait l'intervention d'une cause supplémentaire qui est extérieure à ce sujet, qui le fasse acquérir quelque chose d'autre.
Symbolon idimi megonissimon ukonotazo here fin eroesa χωριτύπε δε τόσε τέρι ασπασί προφανίσα πόθεν τόδε καλόν άθυρμα εόλον όστρα κονέσω χέλης ώρες ζώσα αλίσω σεις δώμα λαβών οφελός τιμιέσι ουδα αποτιμήσω.
L'image est aussi une métaphore, car il y a peu de différence entre elles. Ainsi, lorsque Homère dit en parlant d'Achille « il s'élança comme un lion », il y a image. Lorsqu'il a dit « ce lion s'élança », il y a métaphore. L'homme et l'animal étant tous deux pleins de courage, il nomme par métaphore Achille un lion.
Aristote a été pendant des siècles une autorité, bah, non seulement philosophique, mais finalement un modèle en matière littéraire. Et donc grâce à deux textes, sa rhétorique et sa poétique. Alors, bon, ce qui est intéressant, c'est que ce ne sont pas des textes qui apportent vraiment ni une connaissance théorique, ni une connaissance pratique, mais elles auraient, bon, comme qualité, si on peut dire, d'être une païdéia, enfin au sens grec du terme. Donc en fait, qu'elle serait une manière d'éduquer et de former l'individu. Donc comment vous, Alain Michel, considérez la place de ces deux textes par rapport à notre héritage littéraire ?
Alors cette place est assurément immense, en même temps elle est diverse. Vous avez souligné qu'il ne s'agit pas d'une théorie de caractère étroitement dogmatique et qui donnerait des préceptes tout faits dont on ne pourrait pas s'écarter. On l'a cru quelquefois à diverses époques de l'histoire de la culture, mais en réalité il s'agit, dans toute sa liberté, d'un des aspects majeurs de la philosophie, tel que l'ont toujours considéré les Grecs, et particulièrement Aristote, à savoir l'éducation. Laquelle éducation ne peut être qu'une éducation de la liberté par la liberté. Aristote ressent cela très fortement, et y ajoute bien sûr le sens des synthèses, l'effort pour garder la totalité d'une tradition tout en la rénovant, la rendant plus créatrice et par là même plus humaine. Alors c'est en fonction de ces vues générales qu'il a exercé son influence, parce que il n'a pas seulement transmis un message personnel, mais on peut dire que, à son époque, au IVe siècle, à la fin de la période classique de la littérature grecque, il a transmis toute cette culture classique, en donnant une interprétation, et en donnant une interprétation souple parce qu'elle était philosophique.
Mais justement, prenons comme base la poétique. Alors donc, la poétique, il nous reste deux livres, des trois livres initialement rédigés par Aristote.
Alors, donc premièrement, il nous reste deux livres qui traitent essentiellement de la tragédie et de l'épopée, et qui montre leur rapprochement. Il y a à se demander pourquoi il a choisi cela, parce qu'il y a d'autres types de création littéraire, d'autres types de poétique. S'il a choisi cette présentation, c'est pour plusieurs raisons. Premièrement, il entre dans la culture de la cité, dans un moment où d'ailleurs la cité est menacée. Mais c'est toute une grande tradition qu'il essaie de sauver. Deuxièmement, le théâtre, à ses yeux, et cela est extrêmement important, est un art du logos. C'est un art de la parole. Et c'est en même temps une méditation sur l'action. Ce sont ces deux notions qui sont réunies dans l'idée de poétique. Il y a trois formes de pensée dans la recherche philosophique. L'une est la recherche théorique et, en somme, contemplative, qui s'interroge sur la réalité des choses. La deuxième est la recherche d'ordre pratique, qui s'interroge sur l'action dans la cité. Et puis, il y en a une qui est intermédiaire entre les deux, et qui est l'étude du faire, l'étude de la production. Comment produit-on des œuvres ? Et faire, ça se dit poiein en grec,
c'est donc la poiesis, la poétique,
qui est devenue pour nous la poétique, et qui concerne essentiellement, par conséquent, la création artistique et littéraire. Il est évident que la poétique est normative, c'est-à-dire qu'elle ne se contente pas de décrire ce qui existe, mais elle dit ce qui est le meilleur. Cela dit, y a-t-il des règles, c'est-à-dire des petites recettes que l'on suivrait et qui seraient résumées en peu de mots? Je ne le crois pas, il y en a, mais enfin pas énormément. Ces règles ont surtout été établies à partir d'Aristote par la tradition, et particulièrement à l'époque de la Renaissance et au XVIe siècle. L'exemple type, c'est la règle des trois unités. Aristote parle d'unité. Est-ce qu'il y en a trois ? Est-ce qu'il y en a douze ? Il ne nous le dit pas. Ce qui importe pour lui, c'est qu'il y ait l'unité, laquelle est une exigence logique. L'unité d'action peut engendrer l'unité de lieu, ou l'unité de temps. Mais cela n'a pas toujours beaucoup de sens. L'unité d'action suffit, puisque finalement, l'œuvre tragique se ramène à une chose essentielle, qui est le drama dans la mimesis, l'action dans l'imitation. Ce sont les deux idées majeures, mais ça, c'est pas des règles. Ce sont des principes. Je pense qu'il y a beaucoup de principes chez Aristote, et que c'est précisément parce qu'il cherche les principes, c'est-à-dire l'unification de sa pensée, qui serait naturellement une pensée contradictoire et une pensée ambiguë. Il est obligé de surmonter cette ambiguïté tout en la préservant. Alors les grands impératifs, les grands principes qui apparaissent dans l'œuvre, c'est l'imitation création, poiesis, c'est l'imitation de la nature. Cette imitation de la nature doit se faire dans un certain rapport avec la vérité. Ce rapport avec la vérité est le rapport de vraisemblance. Cela étant, on rejoint la rhétorique, parce que la rhétorique enseigne de son côté l'art de persuader par le vraisemblable. Et pose du même coup une question. C'est plutôt que des règles, ce sont des questions. Le vraisemblable, quels sont ses rapports avec la vérité? Quels sont ses rapports avec l'être? Et en tout cas, le vraisemblable intervient dans la persuasion, c'est-à-dire dans le langage. D'où une autre série d'indications relatives aux procédés et aux techniques du langage. Aristote ne nous dit pas, il y a une chose qu'il ne nous dit pas. C'est quand il faut utiliser des images, par exemple, ou des métaphores, et quand il ne faut pas en utiliser. Il dit au contraire des choses contradictoires. Il dit qu'il faut être simple et il dit qu'il faut être merveilleux. Il ne dit pas comment on peut faire les deux choses qui sont opposées ensemble.
Et alors, à 44 ans, il se marie. Alors, exactement conformément aux préceptes qu'il avait définis dans le politique pour l'âge du mariage.
Oui, il suit ses propres règles, ce qui est quand même très intéressant. Il suit ses propres règles et il s'occupe de sa maison, c'est-à-dire que une fois qu'il pense que l'éducation d'Alexandre c'est suffisant, il n'en fera rien de plus et il ne peut pas aller plus loin. Donc, il abandonne ce Alexandre et il s'installe à Stagir. Reconstruite, il lui donne des lois et il s'occupe de son village, enfin, puisque c'est une petite ville, et il gère un peu ses propriétés et en même temps la ville de Stagir. Et alors là, il écrit ses petits économiques qui sont très amusants, il écrit un certain nombre de choses sur la manière de gérer une maison. Et c'est un passage de sa vie qui est, je pense, calme. Et où il se trouve bien, mais enfin, il soupire après Athènes quand même.
Tout sera bien. Mais s'il arrive un malheur, voici les dernières dispositions d'Aristote. Antipater sera en tout mon exécuteur testamentaire. Jusqu'à la majorité de Nicanor, Aristomène, Timarque, Hipparque, Diotélès et Théophraste, s'ils veulent bien accepter cette charge, seront tuteurs et curateurs de mes enfants, d'Herphilis et de tous mes biens. Quand ma fille aura l'âge requis, qu'on la donne en mariage à Nicanor. Nicanor prendra soin de ma fille et de mon fils Nicomaque et veillera à ne les laisser manquer de rien, se conduisant pour eux comme un père et un frère. Les tuteurs et Nicanor se rappelleront aussi les rapports qu'Herphilis eut avec moi, et comme elle me fut fidèle, si elle veut prendre un mari, ils veilleront à ne pas la donner à un homme indigne de moi. On lui donnera, outre ce que je lui ai déjà donné, un talent d'argent pris sur mon héritage, 3 esclaves si elle le veut, la petite esclave qu'elle a déjà, et le petit Pyraios. Et si elle veut habiter à Chalkis, on lui donnera le logement qui tient au jardin. Si elle préfère Stagir, on lui laissera la maison de mes parents. On affranchira Ambrasis, et on lui donnera, quand ma fille se mariera, 500 drachmes et la petite fille qu'elle a pour servante. On donnera aussi à Thalée, outre sa fillette qu'elle a achetée, 1000 drachmes et une petite esclave. À Simon, outre l'argent que je lui ai déjà donné pour avoir un esclave, on achètera un autre esclave. On ne vendra aucun des enfants qui étaient à mon service, je le défends. Mais on les gardera, et quand ils auront l'âge, on les libérera pour récompense. Enfin, Nicanor, en souvenir de son salut, consacrera, selon le vœu que j'ai fait pour lui, des statues de pierre de 4 coudées à Zeus sauveur et à Athénée salvatrice à Stagir. Diogène Laërce.
L'esclave, tel qu'il est étudié par Aristote, on l'oublie souvent, il étudie ça dans le cadre de la famille.
Francis Wolff.
Il n'étudie absolument pas ça dans le cadre de la cité. C'est une des 3 relations qui parcourt l'oïkos, c'est-à-dire qui parcourt le foyer. Il y a 3 relations, il y a 3 types de communautés dans le foyer. Il y a la communauté du couple, mari et la femme. Il y a la communauté des générations, les parents, les enfants. Et puis, il y a ce qu'on appellerait plutôt les maîtres, les serviteurs, les domestiques. Et alors, ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est qu'on a que fait l'esclave aristotélicien? L'esclave aristotélicien, il est dans la famille, il est au fourneau, il est au maître, etc. On n'a pas l'impression qu'il a une tâche productive quelconque, mais il n'a pas le sentiment que ce soit contraire à la nature de certains êtres, dont tout le problème est de savoir comment les reconnaître, ce soit contraire à la nature de certains êtres, d'obéir pour leur propre bonheur et d'une certaine manière pour leur propre autonomie, puisque leur autonomie, d'autonomie individuelle ils n'en ont pas, mais n'oublions pas que le maître n'en a pas non plus. Parce que le maître, il est un animal qui doit donc se reproduire, et il ne peut pas le faire sans l'esclave. Alors, d'une certaine manière, il a à pourvoir à ses besoins. Et qui peut pourvoir à ses besoins sur le plan biologique, eh bien le domestique.
Donc à 47 ans, c'est le retour à Athènes et la fondation enfin du lycée. Donc ça, c'était quelque chose qu'il attendait depuis longtemps, finalement.
Oui, il a été très aidé par Alexandre.
Anne Coquelin.
Qui lui a donné les moyens d'installer son lycée, d'installer son programme. Le programme, c'est quelque chose qu'il avait en tête depuis qu'il avait fait l'éducation d'Alexandre et qu'il avait, en somme, rodé hein, une sorte de programme d'éducation. Et dans ce programme, il y a à la fois des études naturelles, je ne sais pas s'il y avait beaucoup de mathématiques, mais je suppose qu'il y en avait. Et il y avait naturellement des cours de rhétorique et il y avait de la philosophie. Et donc, c'est une organisation et un programme de développement qui est très pensé. Il avait fait ses preuves sur Alexandre. Et donc, il faut imaginer simplement que lui, ses propres cours, il les donnait en marchant.
Mais vous dites que, comment dire, les cours étaient un peu, enfin, le lycée était construit un peu sous la forme du cercle. Enfin,
non, je pense simplement que les études étaient faites en circulairement. C'est-à-dire, c'était pas la première année, seconde année, troisième année, comme c'était chez Platon. Hein, c'était plutôt très global. Et donc, il fallait un petit peu de tout, et puis il fallait revenir sur ses pas. C'est-à-dire, en fait, on avait un enseignement, comme toute la philosophie d'Aristote, où chaque partie pouvait correspondre au tout.
Nous appelons vertu de l'homme non la vertu du corps, mais celle de l'âme. Nous appelons aussi le bonheur une activité de l'âme. S'il en est ainsi, il est clair qu'il faut que l'homme d'État ait une certaine connaissance des choses de l'âme, de même que celui qui veut soigner les yeux doit en avoir une du corps entier, d'autant que la politique est plus précieuse et meilleure que la médecine. Éthique à Nicomaque, livre 1.
La fonction de l'éthique, si on peut deviner d'après le livre 1, de l'éthique à Nicomaque,
Bernard Besnier,
c'est apparemment de proposer la compréhension de ce qu'est un caractère pour qu'il devienne vertueux, et de ce qu'est l'intelligence pratique pour qu'elle parvienne à maintenir le caractère vertueux, de le proposer à des éducateurs. Hein. C'est clairement ça. Quand on inscrit l'éthique à l'intérieur de la politique, comme on le fait dans plusieurs endroits, dans l'éthique à Nicomaque, c'est-à-dire on cherche à voir ses rapports en disant que ça doit intéresser les gens, en tout cas celui qui va faire des politiques, on prend le politique en tant que c'est un éducateur. Bon, Aristote, de ce fait, considère qu'il y a trois sortes de biens et pas un seul. Alors, pas une seule sorte. Les biens purement internes sont des dispositions de l'âme qui sont acquises. Ce sont les vertus, donc vertus de caractère ou vertus morales, eu égard aux tendances, et vertus intellectuelles. Alors, la vertu intellectuelle est importante parce qu'il ne suffit pas d'avoir la bonne tendance concernant la nourriture. Il faut à chaque fois qu'on est dans une circonstance où on doit choisir quelle quantité je prends, etc., le faire de telle manière que je puisse préserver cette bonne tendance par la suite. C'est ça le propre de la prudence ou de la phronésis. Bon, donc il y a tout de même une hiérarchie. En ce sens que tant des biens du corps que des biens extérieurs, il y a un usage à faire. Et on peut faire un mauvais usage si on n'a pas les vertus internes. Hein. Donc on peut dire que les vertus internes ne suffisent certainement pas au bonheur, mais sont indispensables au bonheur. Tandis que les biens extérieurs sont pas forcément tous indispensables au bonheur et n'empêchent pas forcément le bonheur. Hein, notamment, bon, il faudrait vraiment une grande quantité de malchance pour que l'absence de bien extérieur soit si radicale qu'elle empêche tout exercice du bonheur. Alors il faut se rendre compte que puisque les vertus, à proprement parler, les vertus éthiques, sont à chaque fois des médiétés concernant des usages, bah, évidemment s'il n'y a rien sur quoi exercer cet usage, s'il n'y a pas du tout de bien extérieur, pas de santé ni rien, bon, c'est assez peu probable qu'on sera heureux. Hein. Par définition même, elles doivent être liées à quelque chose de ce genre. Comme. Simplement, on a visiblement une hiérarchie. Si on n'a pas ces vertus-là, quels que soient les biens extérieurs qu'on aura, on n'en profitera pas et on ne sera pas heureux. Hein.
En 139a, le principe de l'action est le choix délibéré. Il est cause du mouvement, mais non de la fin. Le principe du choix délibéré est le désir et le raisonnement fait en vue d'une fin. Voilà pourquoi le choix délibéré n'existe pas sans l'intellect, sans la pensée, ni sans la disposition morale. Réussir ou échouer dans l'action sont impossibles sans la pensée et la morale. Mais la pensée par elle-même ne met pas en mouvement. C'est la pensée en vue d'une fin et qui est pratique. 1139b. Inversement pour l'action. La réussite en est la fin et le désir celui de cette fin. Voilà pourquoi le choix délibéré est soit intellect désirant, soit désir intellectuel. Et un tel principe, c'est l'homme. Éthique à Nicomaque, livre 6.
Alors, lorsqu'Aristote aborde la question de l'homme comme animal politique, il explique en disant que l'homme est par nature un être destiné à vivre en cité. Et celui qui est sans cité, par nature et non par hasard, un être ou dégradé ou supérieur à l'homme, il est comme celui à qui Homère reproche de n'avoir ni clan, ni loi, ni foyer. Donc en fait, le fondement de la structure politique, de tout régime politique, bon, on va le voir, c'est la cité, mais qui elle-même est structurée comme un corps naturel. Donc, comment justement Aristote présente-t-il cette cité à l'image d'un corps physique ?
Alors, vous avez raison, la cité est un être de nature. Déjà, c'est une thèse assez étonnante. Beaucoup de théoriciens, enfin, avant Aristote, et beaucoup de théoriciens après Aristote, fonde l'idée politique, au contraire, sur l'idée d'institution. Soit l'idée, par exemple, de contrat, soit l'idée que les hommes instituent une loi pour faire cesser l'état de nature, etc. Bon. Chez Aristote, le point de départ, mais enfin, il est lié au reste de sa philosophie, c'est qu'au contraire, les hommes vivent naturellement, politiquement. Ça ne veut pas dire qu'ils vivent originairement politiquement. La nature, ça n'est pas à l'origine. La nature n'est pas à l'origine. Pourquoi ? Parce qu'il y a une distinction entre ce que l'homme est en puissance et ce qu'il est en acte. Il y a des hommes, il y a des peuples, il y a des cas où l'homme ne réalisera jamais son être et donc n'arrivera jamais jusqu'au stade politique. Certaines populations sauvages, de la même façon qu'il y a des enfants qui meurent avant de devenir adultes. Il y a quelque chose de plus, c'est que non seulement sans la cité, les hommes ne peuvent pas être, ne peuvent pas vivre, ne peuvent pas vivre complètement, parce qu'ils ont besoin les uns des autres, mais surtout, sans la cité, les hommes ne peuvent pas vivre bien. Eudzen, c'est une expression qui parcourt toute la politique d'Aristote, vivre bien, c'est-à-dire ils ne peuvent pas réaliser leur être de la façon la plus élevée possible, c'est-à-dire être heureux.
Donc la vie en communauté n'est pas un pis-aller, c'est une fin pour atteindre le bonheur chez Aristote.
Absolument, ça n'est pas pour l'homme un pis-aller. Mais peut-être que c'est un pis-aller d'être un homme. C'est-à-dire que peut-être que c'est un pis-aller de ne pas être un dieu. Si nous étions des dieux, nous serions pour l'immortalité des vivants sans besoin ni des choses pour nous régénérer, ni des autres. Et par conséquent, nous n'aurions pas besoin de politique. Bon, nous n'aurions même pas besoin de ces notions comme la justice, etc. Mais comme nous sommes des hommes, et que nous ne sommes pas des dieux, nous ne pouvons que mimer cette éternité ou cette immortalité divine. Et nous la pouvons mimer de deux manières. Soit en tâchant de trouver cette autonomie, cette autarcie, autarkeia, à l'instar des dieux dans la pensée pure, c'est ce que font certains, c'est la pensée théoritique, soit, et c'est ce qui est, c'est le point de vue qu'Aristote adopte dans la politique, en vivant ensemble au mieux sous le toit de la cité. Alors là, nous réalisons notre essence d'homme parce que, entre autres, nous sommes des êtres parlants et que le langage appelle nécessairement l'autre à qui je m'adresse, mais pas simplement l'autre du besoin, comme l'animal qui est capable d'émettre des cris pour, si je puis dire, pour appeler au secours quand il a mal, etc., selon Aristote, mais parce que les hommes ont la possibilité de se signifier ce qu'ils jugent être bon, ce qu'ils jugent devoir être fait par le langage. Et c'est dans cette mesure où, l'homme étant un être parlant, il est un être politique qui réalise son essence, qui achève son essence dans la communauté.
Ο κοινών αυτάδελφων εις μήνης κάρα. Αρίστο τη Ζεύς, τον απειδήπου κακών, οποίον ουχή νόν έτη ζώσεν τελεί. Ουδέν γάρ, ούτε αλγινών, ούτε άτι σάτερ, ούτε σχρόν, ούτε άτι μονέστ, οποίον ούτων σόντε καμών, ου κόπο πεγώ κακών. Και νυν, τι του τάφας είπαν δήμο πόλη, κήρυγμα θύνε των στρατηγών αρτίος. Έχει στίκη σήκουσας, είσαι λανθάνη προς τους φίλους, στίχοντα των εχθρών κακά.
Il faut parler grec. Le fondement du style, arché tes lexeos, c'est de parler grec. Cela consiste en cinq choses. La première, c'est le bon emploi des conjonctions. La seconde, c'est d'employer des termes propres et non compréhensifs. La troisième, d'éviter les termes ambigus. Et cela, à moins que l'on ne préfère le contraire, ce que l'on fait lorsque l'on n'a rien à dire et que l'on veut avoir l'air de dire quelque chose. La quatrième distingue, comme l'a fait Protagoras, les genres des noms masculins, féminins et neutres. Car il faut exprimer ces genres correctement. Elle est venue, et après avoir causé, elle est partie. La cinquième consiste à nommer correctement ce qui est en grand nombre, en petit nombre et à l'état d'unité. Ces gens, dès qu'ils furent arrivés, se mirent à me frapper. Il faut d'une manière absolue bien lire ce qui est écrit et bien le prononcer, ce qui revient au même. Rhétorique, livre 3.
Mais alors, n'est-il pas un peu paradoxal qu'à la fois dans sa poétique, il dise qu'il est nécessaire que le spectateur éprouve de la crainte ou de la pitié, enfin donc un sentiment assez violent et affectif et passionnel, alors que dans sa rhétorique, il dit justement, bon, alors ça c'est une critique des sophistes qu'il fait, qu'il faut cesser d'argumenter sur le mode de la passion, parce que c'est une forme de manipulation affective, et qu'il faut s'en tenir à l'argumentatif. Donc, ce qui vaut pour le théâtre ne vaut absolument pas pour la rhétorique.
C'est une grande question que vous posez, et sur laquelle les critiques à travers toute l'histoire se sont interrogées. Il y a comme ça des textes antiques qui restent problèmes, et qui restent problèmes fondamentaux. Jusqu'à notre époque, cette question, c'est celle qu'on appelait, Aristote le premier, la question de la catharsis, c'est-à-dire la question de la purification des passions.
Alain Michel.
Le grand ennemi des passions, qui pour cette raison rejetait à la fois les sophistes, qui eux croyaient assez aux passions et faisaient l'éloge d'Hélène, par exemple. Et le grand ennemi des passions, c'était Platon. Après Socrate, sans doute, qui avait dû déjà lui enseigner cela. Platon qui disait que tout doit procéder d'une sorte de purification de la pensée et de la pensée rationnelle ou suprarationnelle. Aristote est bien obligé, parce que c'est un point de vue fondamental de la philosophie et de la philosophie antique, d'adopter la même manière de voir. Les passions sont des troubles, sont des ruptures de l'équilibre, et par conséquent, la philosophie les condamne. Seulement, en même temps, Aristote a envie de faire du théâtre, chose dont Platon était disposé à se passer. Il a envie, il aime le théâtre, comme il aime la littérature, comme il aime toutes les choses qui sont, je dirais, dans la nature du peuple, dans les tripes humaines, n'est-ce pas ? Il aime tout l'homme, Aristote. Il aime le corps, il aime l'âme, il aime le plaisir, il aime la pensée. Le théâtre est l'occasion de rassembler tout cela. Mais alors comment faire ? Comment faire si on rassemble tout cela pour en réalité ne pas être un sophiste larvé et quelqu'un qui trahit la philosophie ? Eh bien, il adopte une solution qui est sa théorie de la catharsis. Cette théorie de la catharsis se présente de deux façons. Premièrement, il dit que l'on peut procéder à la purification des passions par l'usage de deux d'entre elles qui sont la pitié et la crainte. Et d'autre part, non pas dans la poétique mais dans la politique, il dit que la véritable catharsis, c'est celle qui est accomplie par l'enthousiasme avec l'aide de la musique. Alors, revenons à la pitié et la crainte. Tout le monde s'est interrogé, qu'est-ce que c'est, ça, pas la philosophie, comment il y a de mauvaises passions. Moi, je trouve que c'est extraordinairement simple. Il faut trouver des passions dont on puisse se servir pour aller contre les autres passions. Et précisément, le théâtre les possède. Il possède la crainte. Nous sommes épouvantés par les malheurs de Prométhée, par exemple, sur le théâtre. Bon, mais du coup, nous ne ferons pas comme Prométhée. Donc la peur est une passion qui peut nous protéger contre les autres passions, l'orgueil de Prométhée, la colère, etc. Et il pense précisément que le rôle du théâtre est de les manifester. Alors il y a une troisième passion, qui est le transport de l'âme, qui est ce qui permet à l'âme de se dépasser, elle-même, et par conséquent de s'élever plus haut que l'humain. Et cette passion, c'est l'enthousiasme. L'enthousiasme qui nous met dans une sorte d'état d'extase et de passivité, mais qui nous met près du divin, et qui nous permet d'échapper aux servitudes de la terre et du corps. Cet enthousiasme, il n'est pas tellement provoqué par les paroles, parce qu'il est au-delà des paroles, mais il se manifeste dans certains états corporels, comme ceux que suscite la musique.
Orate meogas, patrias polite. Orate meogas, patrias polite. Ane atonde pregos lesus on aeriu tu podafis.
Mais alors donc son départ d'Athènes, il est précipité un peu à cause de son neveu Callisthène.
Il y a eu cette malheureuse histoire de son neveu qui a osé dire à Alexandre que tout ce qu'il faisait c'était pas vraiment bien, alors on l'a fait mourir. Il y tenait beaucoup à ce neveu et il l'aimait bien et ça lui a fait sûrement beaucoup de peine. Et de toute façon, les affaires ne marchaient plus très bien entre lui et Alexandre d'abord. Et ensuite de quoi, Alexandre meurt et la Grèce pousse un grand soupir de soulagement et redevient anti-macédonienne. À ce moment-là, il ne peut plus tenir, il est obligé de partir.
Et donc là, il retourne chez sa mère.
Chez sa mère, à Eubée. Où sa mère a une maison, et là, il meurt très vite, ensuite.
Mais en fait, la fin de sa vie est quand même pénible, parce que Delphes, qui lui avait décerné les honneurs,
les lui retire,
ce qui est quand même tragique.
Hein. Non, je veux dire, c'était une série de catastrophes, là. Ça a commencé avec les trahisons d'Alexandre, on peut appeler ça comme ça, et puis ça a continué par cette espèce de mouvement très anti-macédonien, sa fuite et son refuge en Eubée, où il est trop âgé, trop fatigué et trop malade pour refaire encore quelque chose. Alors, il est suivi par quelques intimes, c'est tout.
Et les derniers jours d'Aristote ?
Alors, les derniers jours d'Aristote, il écrit encore. Il écrit beaucoup sur ce fleuve. C'est pas un fleuve d'ailleurs, c'est le passage qui sépare la Grèce de l'Eubée, qui est un passage tout à fait étonnant, que d'ailleurs les géographes ou les océanographes, je ne sais pas comment ça s'appelle actuellement, n'ont pas encore réussi à comprendre, parce que c'est un passage où il y a, je crois, 12 ou 13 marées par jour. Et on n'a jamais compris pourquoi. Et alors il s'obstine à chercher des raisons, et il écrit encore jusqu'au dernier moment. Alors il y a trois versions de sa mort. Moi j'en ai choisi une parce que je la trouve plus poétique. Mais il y en a deux autres. Simplement, il devait avoir un cancer des intestins, parce qu'il avait mal au ventre, et ça, on le sait. Et il gardait sur lui toujours une fiole de huile chaude, peut-être une recette qui tenait de son père, sans doute. Et puis une autre qui se serait suicidée.
Alors, comme Socrate.
Comme Socrate, mais ça m'étonnerait beaucoup, parce que... Je dirais que c'est pas son genre.
Et puis en plus, on a
quand
même... Ou
alors qu'il soit noyé dans le RIP.
Aristote, le maître de ceux qui savent. Une émission de Catherine Paoletti. Avec Bernard Besnier, Monique Dixot, Alain Michel, Francis Wolff et Anne Coquelin.
J'ai des choses qui restent, qui me servent tout le temps. Je veux dire, auxquelles je me réfère très souvent, mais dans le courant de la vie. D'une manière simple, presque normale. Disons par exemple, j'aime beaucoup la phrase d'Aristote disant « il faut préférer ce qu'on aime », ce qui n'est pas toujours facile à mettre en œuvre, et qui est d'un beau courage. Et je suppose c'est ce qu'il a fait. Il y a aussi cette idée que on ne peut juger quelqu'un qu'une fois qu'il est mort, parce que c'est le seul moment où on va avoir toute sa vie ensemble, donner d'un trait. Bon. Sans la mort, au fond, si vous ne mourrez pas, il n'y a aucun sens possible. C'est la limite donne le sens de l'ensemble. Et à ce moment-là, le commencement ne peut se juger qu'à partir de la fin. Ce qui est toujours cette circularité qu'on voit chez Aristote.
On devient ce que l'on est.
On devient ce que l'on est une fois qu'on n'est plus. Ce qui rajoute quand même quelque chose de plus fondamental à la petite phrase de « deviens ce que tu es » ou qui laisse ouvert le chemin. Et là, il est plus ou moins enfermé dans une circonférence. Ça, c'est la seconde chose. Et la troisième, c'est son attention à tout ce qui est devant lui. C'est-à-dire, c'est peut-être un liseur, mais c'est aussi un voyeur. C'est-à-dire, il essaye de voir le mieux possible et pour voir, il lui faut des concepts. Et ça, c'est très important parce que la description, c'est-à-dire quand il décrit avec des concepts. Ça lui sert de scalpel.
Texte lu par Anne-Gaëlle Dargy, prise de son et mixage Jean-Richard Dufour, Pierre Laya et Étienne Roulette. Réalisation Jean-Claude Loiseau.
La vérité et l'erreur. L'actualisation de la puissance.
Une vie, une œuvre. Aristote, le maître de ceux qui savent, une émission déjà diffusée en novembre 1995.